La vie avant tout, une chronique d'écologie intégrale en compagnie de Dominique Vachald et de ses invités.
Bonjour à tous nos auditeurs et bonjour à Juliette. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Donc, pour le thème d'aujourd'hui, ça sera Église verte. On essaie, nous, bien évidemment, de travailler sur l'intergénérationnel dans l'animation de nos paroisses. Daniel, tu ne me diras pas que je focalise sur toi, mais quand je pense à non numérique, je pense à toi. Par contre, elle joue très très bien de l'orgue, ça c'est chacun ses compétences. Ah oui, Daniel est extraordinaire en orgue, c'est notre prof de chant aussi. Bref, et elle n'est pas du tout digitale. Et par contre, oui, c'est tout à fait possible, et ça serait d'ailleurs même bien. Notre prof de chant aussi, bref, et elle n'est pas du tout digitale. Et par contre, oui, c'est tout à fait possible, et ça serait d'ailleurs même bien, d'aller voir les plus jeunes à la paroisse et lui dire, voilà, moi, je suis intéressé. Est-ce que tu peux m'imprimer dans un premier temps les critères pour que je les regarde à tête reposée et puis après, revenir avec un jeune et de créer du lien intergénérationnel. Bon, ben, moi, je m'occupe du projet, mais toi, tu t'assures de la mise à jour de notre fiche en ligne. Et donc, ça peut aussi donner l'occasion de créer du lien. Donc, c'est très bien. Nous, à la paroisse, les plus jeunes font un petit tour et vont chercher avec leur voiture les plus vieux. Donc, on peut faire la même chose. Les plus jeunes font un petit tour sur Internet et donnent les informations aux plus vieux. Et donc, les plus vieux, après, bien évidemment, ils participent. Comme on le fait pour le covoiturage, on peut le faire aussi pour le digital. Bon, bah super. Donc, du coup, comme tu l'as dit tout à l'heure, le fait de répondre aux questions, ça suscite l'action. La transition est toute faite. Est-ce que depuis que vous l'avez lancée, justement, il y a des actions qui ont été développées, concrètes, mises en place et qui peuvent inciter et qui font un peu ce qu'on appelle, alors je sais, Daniel, tu n'aimes pas non plus qu'on parle anglais, mais un success story. Donc, un peu les succès, les choses qui sont nées grâce à la mise en place d'Église verte et peut-être des initiatives qui sont allées plus loin sur certains critères.
Oui, des belles histoires, on en a plein. Alors, d'abord, je voudrais juste commencer en disant que c'est pas toujours facile une démarche Église verte. Déjà, les années Covid, confinement, etc., ont été dures de façon générale pour tout le monde, pour les paroisses et donc pour les démarches Église verte. Et que quand les groupes sont trop petits et qu'un membre part, là, ça devient vraiment compliqué. Ou alors, parfois, il y a des changements de curé ou de AP ou de conseil et le soutien est un peu moins là. Donc, je vais vous raconter plein de belles histoires. Mais effectivement, c'est quelque chose de nouveau qui n'est pas dans le spectre habituel d'action des églises, hein, comme par exemple la solidarité. Les églises sont expertes de l'attention aux exclus et aux pauvres depuis, depuis toujours. Donc voilà, simplement se dire peut-être que parfois il y aura certaines difficultés et qu'il faudra se retrousser les manches pour les relever. Mais donc, en termes de belles histoires, on en a beaucoup. On a déjà pas mal de paroisses qui nous ont dit, après quelques années de leur démarche Église verte, que c'était vraiment devenu quelque chose de communautaire, voilà, les paroissiens sentaient, peu importe les activités de la paroisse à laquelle ils participaient, que c'était une paroisse engagée pour l'écologie. Le curé des paroisses de Beach en Moselle a fait un travail formidable voilà, pour faire diffuser l'importance des enjeux écologiques dans toutes les activités et que ça a donné un vrai liant aussi spirituel à la paroisse. Tous les succès qu'on peut mettre en avant aussi, ce sont toutes les magnifiques célébrations pour la création qui ont lieu, alors soit par rapport aux saisons, soit pendant le temps pour la création, bien sûr. Et donc là, chaque année, on reçoit des images magnifiques d'églises superbement décorées, avec des globes peints, beaucoup de plantes, des belles fleurs, des fruits et légumes qui décorent le temple ou l'église et qui ensuite, donc voilà, pour rendre grâce pour les moissons, les récoltes, et puis ensuite qui sont redistribuées sous forme de paniers solidaires. Donc tout. Ça, c'est pas très individuel comme exemple, mais ça, c'est quelque chose qui est répandu. Voilà, faire une célébration pour rendre grâce au Dieu créateur et puis prier aussi pour certains enjeux. Et ça arrive partout en France. Et je pense que c'est quelque chose vraiment à retenir d'Église verte, c'est de faire une place au Dieu créateur dans sa vie liturgique, on va dire. Ensuite. Ce qui est vraiment beau, c'est l'œcuménisme dans l'Église verte. C'est une source de rencontres vraiment qui marche super bien. Par exemple, pendant le temps pour la création 2022, il y a eu une célébration œcuménique à Marseille vraiment superbe sur ce thème, sur le thème choisi pour l'année, où vraiment des chrétiens de toute sensibilité, toute tradition ont participé, et aussi où en fait beaucoup d'églises ont envoyé une chorale pour chanter un chant de son répertoire sur les thèmes de la création. Donc voilà, et l'archevêque de Marseille, le cardinal Aveline était présent aussi avec des protestants réformés, évangéliques, des chrétiens d'Orient, etc. En Hérault, donc à Montpellier, chaque année depuis 2019, il y a une journée de rencontre œcuménique avec une célébration œcuménique et pas mal d'activités, que ce soit la fresque du climat, des jeux de piste, à chaque fois dans un lieu magnifique. Ensuite, au niveau des lieux d'accueil, des centres spirituels, toutes les communautés qui sont engagées dans l'Église verte et qui ont un terrain assez important et puis une hôtellerie à gérer, etc., que ce soit tenu, enfin, que ce soit à l'intérieur d'un monastère ou tenu par une communauté apostolique ou par des laïcs, on a vraiment des très beaux exemples. Par exemple, le plus connu qui fait le plus parler de lui, c'est l'éco-centre spirituel du Châtelard. Donc, c'est un centre spirituel de la Compagnie de Jésus qui s'est donné pour objectif de devenir un éco-centre et qui justement est aussi rentré dans la démarche Église verte en parallèle de ce projet. Et donc là, il se passe des choses assez fantastiques. Il y a donc une agricultrice biologique qui vient d'être installée pour du maraîchage sur 1 hectare ou 2, de la récupération d'eau de pluie qui est en train de se mettre en place pour justement pouvoir irriguer ses cultures, la cuisine qui est reprise en gestion directe, donc c'était précédemment une grosse entreprise de restauration collective, en gestion directe reprise pour pouvoir proposer plus de repas végétariens, des produits issus de la région, associer les convives à la préparation des repas et lutter contre le gaspillage alimentaire, des propositions de retraite sur les exercices spirituels de Saint-Ignace mêlés à d'autres ateliers d'éco-spiritualité. Donc, j'ai cité le Châtelard, mais il y a plein d'autres qui font des super choses. Par exemple, Notre-Dame du Cénacle à Versailles, où elles sont en partenariat avec des écoles, il me semble, d'ingénieurs ou d'agronomie pour avoir une parcelle test où des étudiants viennent et tente des choses, des nouvelles façons de cultiver. Donc voilà, tous ceux qui ont un grand terrain et de l'accueil régulier de public, il se passe des choses assez formidables. D'autres exemples, c'est l'ouverture à d'autres qu'on peut observer. Donc par exemple, des paroisses en zone urbaine qui lancent un compost dans leur petit jardin et qui l'ouvre aux habitants du quartier. Donc les habitants du quartier viennent et bénéficient de ce service-là et c'est toujours un moment de rencontre. Ça peut être des choses plus petites mais aussi significatives. Une paroisse à Paris, Saint-Jean Bosco, accueille le matériel de l'association complètement laïque Moisson Solidaire. Donc c'est une association qui va à la fin des marchés récupérer les fruits et légumes invendus, un peu cabossés, et qui en fait justement des paniers gratuits pour des gens qui n'ont pas l'argent pour acheter des fruits et légumes pour eux-mêmes et leur famille. Et en fait, ça, rien que ce geste de leur permettre de stocker le matériel pour récolter les fruits et légumes gratuitement, bah, c'est une super ouverture sur une association du quartier, un lien qui se crée. Et à Évreux, j'ai entendu, donc ça, c'est vraiment une histoire très particulière, ça pourrait, avec l'association en question, elle n'existe pas partout, mais donc la paroisse avait un joli bout de terrain et elle savait pas trop quoi en faire. Donc cette idée de jardin partagé a émergé, mais ils n'avaient pas forcément les forces en interne pour le faire vivre ou de partenaires naturels. Et puis, au bout de la rue, il y avait l'association des familles et amis des traumatisés crâniens. Alors ça ne se trouve pas partout en France, mais ils sont allés les voir. Et en fait, cette association a dit, mais oui, enfin, jardiner, faire une activité manuelle, c'est quelque chose qui a des effets positifs sur ce type de traumatisme. Donc oui, on est partant, on va lancer ça avec vous. Donc voilà, ces exemples de s'ouvrir à d'autres, à des associations. Voilà, il y a eu aussi une. Donc l'Église, pour continuer sur l'ouverture à d'autres, l'Église évangélique libre de Paris, donc Alésia dans le 14e arrondissement, a son inscription. Elle a contacté toutes les autres communautés déjà labellisées de l'arrondissement. Et puis elle s'est présentée enfin, elle a appelé l'adjointe enfin, voilà, au sujet écologique. Donc, alors, dans certaines communes, on connaît déjà très bien la mairie puisque notre église est propriété de la mairie. Mais dans d'autres, par exemple, les églises protestantes sont beaucoup plus souvent propriétaires de leurs locaux. Donc la mairie, elles sont en contact avec ceux qui sont chargés du religieux ou quand il y a des alertes vigilance attentat et enfin voilà pour les communautés religieuses, mais pas beaucoup plus. Et donc là, elle a expliqué ce que c'était la démarche Église verte, en quoi les églises s'engageaient là-dedans, à une élue bah, sur les sujets écolos qui n'y connaissait rien au fait que les chrétiens pouvaient se mobiliser aussi. Donc ça, c'était vraiment une démarche intéressante. Alors, pour citer encore juste trois autres exemples, il y a beaucoup de communautés qui proposent des parcours spirituels à leurs membres dans le cadre de leur démarche Église verte. Donc maintenant, il y a beaucoup de parcours qui existent. Par exemple, la série vidéo Des arbres qui marchent pour voilà, s'interroger sur les racines spirituelles de la crise écologique et puis le christianisme là-dedans. Le Christ vert, des ateliers Où atterrir développés par le Collège des Bernardins. Ouais, il y a beaucoup de choses pour faire le lien. Bien sûr, la lecture de l'encyclique Laudato si, si on l'a pas déjà fait ou qu'on veut le refaire. Donc, beaucoup de choses sont possibles à ce niveau-là. Et ensuite, dernier exemple intéressant, c'est donc la paroisse Saint-Gabriel à Paris qui a mené une démarche assez intéressante autour des bougies. Donc, ils avaient des lumignons en plastique et ils se disaient, ah, ben, dis donc, quand même, peut-être qu'on pourrait les remplacer par quelque chose. Enfin, sans protection jetable, pas en plastique, etc. Ils sont allés voir la secrétaire de la paroisse pour lui demander combien de lumignons étaient achetés par an. Et donc, c'est pas une paroisse qui est sur un axe touristique ou quoi. Donc, c'est pas Notre-Dame ou Montmartre où des touristes viennent spécifiquement pour allumer des bougies. Et surprise, surprise, la secrétaire a répondu 15 000 lumignons, donc 15 000 godets en plastique par an. Et donc, après, enfin, ils ont fait tout un comparatif et ils sont allés poser des questions à la secrétaire, aux utilisateurs, etc., pour savoir les avantages, les inconvénients de tel type de bougie, parce qu'il y en a qui brûlent plus longtemps, il y en a qui. Mais celles qui brûlent moins longtemps, ben, elles produisent moins de déchets, etc. Bon. Et donc, c'était assez intéressant de voir qu'à partir d'un élément matériel, voilà, un godet en plastique, on puisse faire une démarche de consultation et se creuser la tête pour trouver la meilleure façon de voilà, limiter les déchets et de remplacer ça. Et donc, ils ont opté sur, il me semble, des cierges à 50% faits en cire recyclée pour les remplacer. Mais ce qui était intéressant, c'était voilà, aller poser des questions à plein de personnes différentes, étudier les différentes options, en faire vraiment quelque chose, un choix communautaire, plutôt que juste voilà, une personne décide du changement et elle l'applique. Voilà un peu pour le tour d'horizon des petites histoires.
Super, merci beaucoup. Alors, pour tout vous dire, ce qui s'est passé derrière, c'est que j'avais dit à Juliette de nous prévoir quelques petites histoires, parce que je sais que nos auditeurs, quand ils font les retours sur nos émissions, ils adorent les petites histoires. Et donc, bah merci beaucoup, Juliette. C'est plein de belles petites histoires. Et effectivement, quand notre démarche Église verte peut créer du lien entre nous Et puis, entre guillemets, évangéliser aussi, hein, de dire aux ben, venez et voyez, quoi, venez participer, et venez faire le potager avec nous. Et puis, quand ils vont voir qu'en faisant le potager, ben, les sœurs ou les moines qui sont là, ben, ils sont gentils, ils sont souriants, ils sont joyeux, et qui trouvent leur gentillesse, leur joie, ben, dans la paix, dans la joie du Christ, ça peut aussi permettre de dire, ah ben tiens, quitte à être là, ben, je vais peut-être aussi rester aux offices et pourquoi pas. Et c'est aussi un moyen d'évangéliser ben, tranquillement et de monter la présence du Christ réellement. Et de toute façon, la joie ne peut être que par le Christ. Donc, c'est un bon moyen aussi d'ouvrir nos portes. Alors, il y en a c'est une question que je n'avais pas prévu de te poser. J'espère ne pas te mettre mal à l'aise, mais je te la pose quand même. Donc, nous, on a, bon, dans nos paroisses, on a quand même un gros problème économique. Donc, on a quand même des schémas économiques qui sont difficiles. Et l'avenir économique n'est pas toujours simple. Donc là, on a par exemple la porte de la paroisse qui a été fracturée et on doit trouver 2000 euros, je crois que c'est la porte de la paroisse. Et ce n'est pas simple. Alors, est-ce que dans Église verte, la dimension économique est aussi abordée, ce qui nous permettrait de traiter un point? Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ça va me permettre de t'entendre aussi sur la question. On en parle, on n'ose pas, on n'en parle pas beaucoup, on fait comme s'il n'y avait pas de problème, or que quand même, on a un schéma économique qui est difficile à nous. On vit économiquement, on mise 6 mois de l'année avec les rentrées et les 6 autres mois, c'est très, très, très périlleux, surtout en période de crise et depuis le Covid. Donc, est-ce que la démarche Église verte permet d'une façon ou d'une autre de répondre à cette préoccupation qui, en tout cas, moi, sur notre paroisse, est une vraie préoccupation et on n'ose pas trop, on n'en parle pas ou on fait comme si, mais on a quand même du mal. Est-ce que ça permet d'aborder ce sujet-là?
Alors, pas directement, mais en fait, il y a énormément d'actions qui, à la fois, sont bénéfiques du point de vue des enjeux écologiques et puis aussi du point de vue du portefeuille. Donc, souvent, les paroisses nous disent, enfin, voilà, nos bâtiments sont des passoires thermiques, mais on n'a absolument pas l'argent ni les compétences pour les rénover, etc. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que on n'a pas forcément besoin de rénover. Son bâtiment pour économiser de enfin pour enfin voilà de consommer moins d'énergie, moins d'eau, etc. Donc il y a pas mal d'actions qui en fait vont avoir un impact et sur enfin diminuer son empreinte carbone, son empreinte sur les ressources naturelles, etc. et diminuer ses factures. Donc par exemple un tout petit exemple, mais installer des mousseurs sur les robinets, donc en fait ça fait passer de l'air dans le débit de l'eau, donc la colonne d'eau, elle garde la même taille, mais il y a moins d'eau qui passe, bah, ça fait faire des économies d'eau, donc c'est bénéfique sur la ressource en eau, donc bah, en Corse, je pense que ça parle, mais aussi ça fait diminuer la facture d'eau. Ensuite, donc il y a, par exemple, je sais qu'il y a une paroisse. En faisant son diagnostic Église verte, elle s'est dit, alors je suis désolée, je me souviens plus laquelle c'est, mais la personne m'a dit, ah bah juste, donc je suis allée faire un tour un peu dans le ventre de la paroisse, je suis descendue au sous-sol ou dans des petites pièces où personne ne va jamais, et j'ai remarqué que tous les chauffe-eau étaient réglés beaucoup trop haut, donc je les ai tous baissés, et puis bah, ça aussi, ça fait faire des économies d'énergie. Si donc voilà, quand l'année dernière, quand donc les prix de l'électricité, du gaz, du fioul, etc. avaient déjà beaucoup augmenté. On a fait une formation réduire la consommation d'énergie de sa communauté qu'on a mise en ligne sur notre site internet, sur notre chaîne YouTube et où on a ajouté beaucoup, beaucoup de suggestions de diocèses et d'églises, etc., sur des conseils sur comment économiser l'énergie au maximum. Donc après, selon si on a des hivers très froids ou pas, enfin ça va nous faire... enfin, si on allume beaucoup le chauffage ou pas, ça va faire économiser beaucoup ou pas. Mais voilà, ce sont des bons conseils. Ensuite... Bah ça, sinon, Église verte coûte pas forcément grand-chose. Il y a beaucoup d'événements qu'on peut organiser complètement gratuitement. Il y a des choses où c'est quelque chose qu'on aurait fait de toute façon, et si on le fait de façon un peu différente, ça coûte pas forcément plus cher. Et après, effectivement, pour s'approvisionner, on va dire, de façon éthique, que ce soit pour la nourriture, le café, le thé ou les objets. Bah selon là où on est et l'offre qui est disponible, ça peut être plus cher ou moins cher. Donc si on effectivement parfois quand on est en rase campagne où enfin il n'y a pas forcément beaucoup de possibilités d'approvisionnement autres que la grande surface du coin et parfois ça peut être moins cher si on est dans une grande ville et on a plusieurs options. Un dernier point par exemple, donc tout ce qui va être par exemple acheter du matériel électronique reconditionné, bah ça c'est à la fois moins cher que d'acheter du matériel neuf et aussi ça permet d'économiser des ressources naturelles.
La vie avant tout, une chronique d'écologie intégrale en compagnie de Dominique Vachald et de ses invités.